been a very bad girl. A very, very bad, bad girl, Gaga.
Je fais partie de ces cabossés du monde moderne, mais téméraire, je remonte encore et encore sur le ring de l'apéro, quand bien même le muscadet toujours me met KO. Je tends le verre en guise de gant pour boxer mon foie, mon crâne, mon estomac. D'euphorie à grismine, chute matinale de dopamine à tison teasé. Troisième round, comme une queue de pelle, un shot en guise de coup sous la ceinture et bam! Punch, ponche, liqueur, corps à corps, bourré, bagarre, uppercut, squitté, lutte à 45 degrés, vodka, combat, gin, boxing.
Je ne bois plus l'alcool, je ne bois que de l'eau. Je ne bois plus l'alcool, je le bois le sirop. Je ne bois plus l'alcool, la boisson qui rigole. Je ne bois plus l'alcool, le sirop d'alcoolo.
Je dirai pas non à un chocolat belge, et je n'irai pas oui à un coca whisky. Je ne refuserai pas un tour de manège, mais je refuserai bien.
Je ne bois plus l'alcool, je ne bois que de l'eau. Je ne bois plus l'alcool, je le bois le sirop. Je ne bois plus l'alcool, la boisson qui rigole. Je ne bois plus l'alcool, le sirop d'alcoolo. Quand l'alcool il a coule, mais je m'en bats les couilles. Une sensation d'ivresse en allant à la messe. Maintenant très peu pour moi, je me sens mieux comme ça. Je ne bois plus l'alcool, ni même le passaga.
Hey, bonsoir tout le monde. On est bien vendredi, quoi. Il est 19h11, vous êtes bien sur Canal B, dans Frisson, ou l'inverse, peut-être. Salut Lulu.
Hey, salut Gwendo.
Mais oui, je suis.
On repart sur Gwendo, du coup.
Ouais, guess who's back, ouais.
Véro,
ouais.
C'était une parenthèse.
C'était ma petite parenthèse de Véronique Sanson pour nos petits invités de la semaine dernière. Et parlant d'invités, on a le plaisir ce soir de recevoir Charlize qui est avec nous autour de la table. Salut Charlize.
Et salut.
Et Charlize, elle est avec nous pour parler de différents projets musicaux, à commencer par Amanda Young. Amanda Young, parce que c'est Ludo et Guillaume d'ailleurs qui. Je veux dire, c'est pas qu'ils t'ont découvert.
Si. On t'a découvert en concert aux Ateliers du Vent, c'était en début décembre, fin novembre.
C'était le 16 novembre.
novembre sur une soirée queer aux ADV qui réunissait Île-de-Garde, Cannabich et toi-même.
Exactement.
Et voilà, donc l'occasion de se retrouver pour papoter un petit peu de tout ça. On va peut-être commencer déjà par. Tu as plusieurs projets à ton actif et d'ailleurs pas que dans la musique. Me semble-t-il.
Exactement.
Si je t'ai bien stalké sur les internets.
Tu m'as très bien stalké.
On va peut-être pas les truites. Le morceau qui a ouvert l'émission, c'est toi qui l'as choisi. On t'avait demandé d'apporter une vieillerie, une
Exactement.
Influence. Et t'as fait un super bon choix, quoi.
Je vois que ça t'a plu.
Ah bah oui.
Est-ce que tu peux nous désannoncer
ce morceau-là?
De
laisser passer tout l'album.
C'était 100 Years de The Cure sur l'album Pornographie. Donc j'ai oublié l'année de sortie.
82,
bravo. Et ce morceau, alors j'hésitais entre plusieurs choses parce que Ludo m'a donc dit d'amener une vieillerie, quelque chose qui m'a beaucoup influencé au début. Et donc du coup, je suis allé remonter loin dans les souvenirs d'adolescence de qu'est-ce que j'ai commencé à écouter en premier qui m'a vraiment emmené vers ce que je suis maintenant musicalement. J'hésitais entre plusieurs trucs. Et donc j'ai un peu hésité avec Marilyn Manson, mais pour diverses raisons qui me semblent assez évidentes, j'ai choisi de ne pas passer Marilyn Manson.
C'est une histoire pédopornographique ou
Non, c'est alors ouf. Non,
ça c'est cool.
Jusque là.
je confonds toujours avec Michael Jackson. Oh,
non. Si, il a des MeToo ou des
mais
trucs.
Mais il a effectivement des grosses casseroles au cul. Voilà, je n'ai donc pas choisi parce que de fait, il s'avère que Marilyn Manson était une personne assez horrible. Voilà, et donc je me suis dit que j'allais proposer un autre truc que j'ai découvert dans les mêmes eaux vers 12, 13, 14 ans. Et donc, c'était justement cet album que mon père m'avait fait écouter. Justement, parce que je lui dis, papa, j'ai découvert Marilyn Manson, c'est trop dark. Il m'a dit, écoute ça. Voilà.
Tu m'étonnes.
Écoute ça, tu vas passer dans la cour des grands. Et ouais, et en vrai, ce morceau, c'est assez dingue comment, en le réécoutant, je me dis, ouais, mais c'est vraiment le truc qui m'a vraiment forgé. Ce qui, dans ce morceau, en fait, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il y a littéralement 4 accords. Enfin, le riff principal qui prend le plus place dans le morceau, c'est 2 accords. C'est 2 accords.
Ouais, mais même sur les autres morceaux de l'album, il n'y a pas des masses d'accords.
Et c'est vraiment ce minimalisme très sombre, désespéré et très lancinant qui, je pense, c'est vraiment un truc qui m'a le plus
influencé. Et tout l'album, on a beaucoup parlé de cet album dans l'émission, on saura trop vous le conseiller si vous aimez ces ambiances. C'est le seul morceau de l'album où il y a une boîte à rythme, sinon c'est de la batterie, mais la batterie est jouée de façon tellement millimétré que ça, on pourrait penser à une boîte à rythme, mais en tout cas, Pornographie est l'album ultime. Quoi.
Ouais.
En tout cas, merci. En plus, en vinyle, Pressage 82, c'est parfait. Quoi.
Ouais. Je pense que Guillaume va se mordre les doigts
pas
de ne
pas
être avec
vinyle.
Nous. Guillaume va se mordre les doigts de ne pas être avec nous, rien que pour avoir loupé ce morceau à l'antenne en direct. Et parlant de monstres et de personnages un peu border à la Marilyn, moi ça me fait penser à Jigsaw parce que j'ai cru comprendre, toujours pareil en geekant un peu, que le nom d'un de tes multiples projets, Amanda Young, n'était pas sans rapport avec cette espèce de sombre saga Saw.
Exactement.
S-A-W. Donc je pensais pas m'être planté, mais je veux bien que tu confirmes, on va dire, cette petite filiation nominative.
Eh bien, de fait, Amanda Young, c'est une référence à un personnage de la saga Saw qui s'appelle tout simplement Amanda Young. Et c'est un spoiler pour les personnes qui n'ont pas vu la saga. C'est un personnage qui commence à devenir important à partir du deuxième opus. Mais disons que c'est une personne très chaotique, très perdu, très addict aussi, et qui malheureusement se sert un petit peu de son...
Addict à quoi ?
Addict à l'héroïne notamment, et se sert notamment de la vision qu'elle a d'elle-même en tant que victime pour se placer sous sous l'ombre de son maître Jigsaw pour en fait faire des trucs encore plus horribles que lui. Et c'est un petit peu le genre de personne où tu te dis que qui te fait te rappeler que les personnes qui ne se perçoivent uniquement comme martyrs sont souvent des personnes assez dangereuses.
Tu veux dire le passage de la victime au bourreau, si je t'entends? Parce que je te confesse que je n'avais jamais vu cette saga et que je compte ne jamais la regarder.
Ouais.
Pour diverses raisons.
Saucisse quand même.
Ouais, Saucisse, Saucette, bon ça va, le bon bref.
Ouais, bon, on fait toujours le même blague
pourri. Humour de daron. j'ai du coup, à cause de ça, en faisant des recherches sur toi, je me suis quand même fardé la vidéo d'un youtubeur ultra geek et je te dis, je vais te citer ce que le gamin raconte, enfin le gamin, je dis ça, il pourrait avoir mon âge, mais peu importe, raconte sur cette fameuse Amanda. Amanda, ancienne droguée, attaquée par une silhouette sombre à tête de cochon. Réveillée dans l'obscurité avec un goût de sang dans la bouche, reprenant doucement conscience, elle panique alors, découvrant le mécanisme sadique et mortel posé sur sa tête. Un piège à ours inversé, fixé sur ses mâchoires, qui ne mettrait que 60 secondes à se déclencher et à la tuer. Alors du coup là, à ce moment-là de la vidéo YouTube, on comprend pas trop comment, mais en fait, fait est qu'elle s'en sort. Et que oui. Ça devient visiblement l'adjuvant de cette espèce de tordu.
Exactement.
Dont l'objectif, si j'ai bien compris, tu me confirmeras ou infirmeras mes dires, est plutôt de séquestrer et potentiellement torturer des gens pour que ces gens-là prennent conscience de l'importance de l'existence. Et donc en fait, c'est affaire de renaissance, si j'ai bien compris.
C'est exactement ça. Il y a un truc complètement mystique et spirituel dans la démarche donc de Jigsaw, le tueur au puzzle, John Kramer, c'est de prendre des gens qui n'apprécient pas leur vie et qui ne se rendent pas compte de la beauté du don de la vie. Et donc les mettre dans des pièges où leur volonté de vivre va être mise à l'épreuve pour voir s'ils s'en sortent. Et ils voient ça littéralement comme une thérapie en fait. C'est-à-dire que s'ils s'en sortent, ils vont en sortir plus libérés et reconnaissants du don de la vie qu'ils n'ont jamais été.
Tu trouves pas que c'est un peu judéo-chrétien, cette
histoire ? C'est complètement judéo-chrétien. Mais ça, c'est un glissement qui s'est opéré progressivement dans la saga. À la base, juste ça, c'est juste deux mecs qui se retrouvent enchaînés dans une salle de bain dégueulasse et ils doivent se couper les pieds s'ils veulent pouvoir sortir de là. Et l'un doit tuer l'autre au bout de 6 heures. À la base, c'est juste ça. Le personnage du tueur, il est arrivé que dans le deuxième. Enfin, il a été développé que dans le deuxième et c'est là qu'ils lui ont donné les motifs. Et ce mec, en fait, c'est juste un énorme rageux judéo-chrétien qui se donne une espèce de supériorité d'âme en disant vouloir sauver les gens de leur pauvre vie, mais c'est juste quelqu'un qui a beaucoup de mal. Alors c'est quelqu'un qui n'aime pas les addicts déjà, c'est quelqu'un c'est ça que j'aime bien dans la saga Saw en fait, c'est que en tout cas dans les premiers ça te plonge vraiment dans un univers où il y a pas, et c'est pour ça en fait que j'apprécie cette saga, même si ça reste de l'horreur hormis le premier qui est vraiment un thriller, mais le reste ça reste de l'horreur assez bis, enfin c'est du divertissement, c'est vraiment du divertissement, c'est la saga, c'est du slasher, du torture porn comme on appelle ça, mais ouais c'est dérivé du slasher, mais les personnages sont pas trop développés, donc en soi tu t'en fous un peu, mais t'es quand même plongé dans un univers où t'as basiquement que des addicts, des anciens tolards, des dealers, enfin t'es plongé dans un univers où il n'y a pas vraiment de belles personnes. En tout cas, de belles personnes au sens où tu te diras « Ah ouais, ça c'est une personne où tu vas te raccrocher à l'idée d'une personne bien. » Parmi les victimes du tueur au puzzle, en fait, t'as que des gens qui sont des gens laids pour la société.
Il n'y a pas Gabriel Attal, quoi.
Il n'y a pas Gabriel Attal. Voilà.
Sans transition sur les addicts, mais justement, on va peut-être pouvoir en revenir à ton projet musical sur la question des addicts, des accros, des errances. Ouais. Toi, ton projet, tu l'inscris plutôt dans une logique comment tu redéfinirais le projet?
Comment je définirais mon début?
Parce que trap, c'est pareil, je suis allé re-geeker sur sur la définition du terme et l'origine du terme de trap, donc c'est-à-dire le lieu qui devait initialement désigner les lieux de consommation de drogue, de l'origine, tu vois, du début du courant de la musique trap, donc des années 2000.
Ah, mais tu m'apprends un truc là.
Et donc je me suis dit que peut-être que tout ça était lié dans ton petit cerveau.
Tu prépares trop les choses.
Je crois très très bien.
Est-ce que vous croyez que j'intellectualise trop?
Le fait là, pour le coup, t'as trop intellectualisé parce que je ne savais même pas ça. Et
Moi, ça m'a fait marrer, me disant en gros que tu t'avais choisi pour nom de scène sur ce projet là le pseudonyme d'un personnage d'addict drogué tout en faisant un projet qualifié entre autres et pas que de trap, et trap désignant typiquement une musique qui s'est développée dans des lieux de deal et de dope quoi.
Bah après je pourrais revenir sur comment je suis tombé dans la trap plus tard, mais je ne savais pas ça effectivement, et c'est juste parce que aussi la forme c'est quelque chose dans lequel je me suis mise assez tardivement dans ma guillemets carrière, et en fait ce qui me plaît aussi là-dedans c'est la simplicité de l'exécution, c'est-à-dire que bon bah j'ai trouvé un beat, j'ai trouvé un sentier cool,
le fait de tout faire toute seule,
oui voilà aussi exactement. Bah, je fais souvent beaucoup de choses toute seule, mais pour l'exécution live pour le coup a priori pour le moment, même si j'aimerais bien avoir quelqu'un derrière moi qui passe les instrus et qui met le feu, je peux le faire seul et c'est assez cool. Et ce que j'aime bien dans la trap en fait, après c'est un truc que j'aime dans énormément de musique, c'est la spontanéité brute, et c'est un truc pour lequel la trap, enfin en tout cas la trap alternative que j'ai pu découvrir 2016-2017, c'est là-dedans que ça m'a plu en fait. Et je savais pas du tout que c'était que le terme venait de là. Et après il y a une autre utilisation du mot trap qui pourrait être ironique, c'est que c'est aussi un terme qui est utilisé pour désigner les femmes trans, pour dire que ce sont des pièges. Voilà, parce que nous n'existons, parce que les hommes cis croient souvent que tout tourne autour d'eux et que nous n'existons que pour piéger les hommes cis, parce que lol, la bite.
Ouais, je crois que j'ai déjà entendu ça chez les vieux mecs blancs post-68.
Oui, ça vient d'un...
Le running gag du mec qui a embrassé, oh mon dieu, à un homme qui était une femme ou qu'on sait pas en soirée.
C'est ça,
ce genre de blague un peu lourdingue, mais qui j'espère appartiennent à une époque qui, en tout cas, une génération qui n'est plus la nôtre.
Eh bien, malheureusement, non, parce que c'est un truc que j'ai...
Oui, j'ai peur que non.
Non, c'est... En fait, ça vient d'un mème qui était fait avec la tronche de l'amiral Akbar dans Star Wars, et il est marqué « It's a trap » parce que c'est une réplique de ce personnage-là, et c'est un mème qui est utilisé pour désigner des femmes trans. Voilà. Donc voilà, la trap for traps, c'est ça que je voudrais...
Moi, je me suis dit que de toute façon, beaucoup de choses faisaient lien en fait dans ton parcours. Je pense qu'on va peut-être pouvoir se réécouter un petit peu de musique pour illustrer
tout
ça.
Oui, carrément, on va écouter.
Mais il y aurait pas mal à dire sur les liens justement entre influence, référence et culture diverses et variées.
Si vous, de l'autre côté du poste, vous ne savez pas de quoi on parle, quand on parle de trap et tout, on va écouter un morceau de toi, Amanda Young. Voilà. Le morceau Tumblrcore, tu vas le présenter un peu, le morceau?
Alors, c'est pas parce que c'est peut-être un des morceaux les moins typés trap, parce que la trap, si vous ne savez pas ce que c'est que la trap, mais que je vous fais écouter une boîte à rythme de trap, vous allez tous se reconnaître, parce que c'est le truc que tu entends le plus dans la musique, quelle qu'elle soit, depuis environ une dizaine d'années. C'est voilà, cet enchaînement de gros subs bien lourds, de kicks assez chargés et sourds, et ces petits, je vais essayer de les imiter, ces petits charlets, ces petits trucs très saccadés que tu reconnais, que tu as absolument partout. Ça commence à s'en émanciper, mais voilà, on a entendu ça partout dans le rap et la musique pop depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc oui, Tumblrcore, c'est une démo qui date, et d'ailleurs vous pourrez marquer quelle date, parce que je me genre au masculin dedans. C'est subtil, et voilà, c'est un morceau que j'ai... Il faut savoir qu'Amanda Young, c'est plutôt un morceau...
publié il y a un an sur SoundCloud, alors le morceau était sur...
Le morceau était enregistré bien avant. Et en fait, Amanda Young, c'est un peu particulier, que du coup je suis là pour parler de ça à la base, c'est que c'est un peu un projet de fin de mois en fait. C'est un peu... j'avais des morceaux de rap parce que j'avais besoin à un moment de faire du rap, parce que voilà, cette spontanéité, cette simplicité de l'exécution, de me dire bon, allez, je fais une instru, faut que ce soit simple, faut que ce soit catchy, et j'écris un texte par-dessus. Et à ce moment-là, j'avais besoin de faire ça. Et c'est un projet que je sors du placard quand j'ai envie de... Des fois, j'ai juste cette envie viscérale de monter sur scène et d'aller littéralement gerber mes problèmes à la gueule du public.
Mais vraiment, moi, je fais ça à la radio, donc pas de jugement, quoi.
C'est littéralement ça, la démarche. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément trop travaillé le studio, parce que j'ai pas eu le temps, en fait, tout simplement. Mais je pense qu'il y a du potentiel dans ce projet que j'ai envie d'exploiter, en fait. Et voilà, Tumblrcore, c'est une de ces démos que je te laisse mettre, Ludo.
C'est parti.
Lower the walls for the next few days, okay? The self-induced isolation you got going is not healthy.
se gaver, se remplir, combler un vide incommensurable. Comment fait-on pour baiser sans que les jouissances soient insignifiantes? Proximité physique, distance émotionnelle sont à découvrir.
Le sang coule sur mes joues, me cimbrine encore sur mes doigts.
effectivement.
Ah putain, on est déjà à l'antenne, mais ça passe trop vite. Bon bah à l'instant, on vient d'entendre, dis-moi si je dis pas de conneries, Tumblescore.
Tumblercore.
Tumblecore, tu vois, je lis mal et j'articule mal. Amanda Young, notre invité, donc de retour sur Incanalé.
C'était le premier morceau qu'on écoutait, mais on a enchaîné avec un deuxième morceau que je te laisse.
Alors c'est une instru à moi. Parce que du coup je fais mes instruments moi-même du coup, et c'est une instru que j'ai filée à ma pote Wasted 180 qui est de Lyon, qui fait également de la trappe transsexuelle, la trappe pour trapper
Gérard Larcher,
pour traps, et voilà. Et donc du coup on a fait un featuring sur ce morceau qui date aussi pas mal. Mais je suis très 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 contente de cette collaboration. On ne l'a fait qu'une fois en live à un concert à Toulouse. Et je vous conseille fortement d'aller checker Wasted 180. Voilà, qui vient d'ailleurs de sortir un morceau avec Atima, notre meuf trans du rap game queer également.
Et ça, c'était le morceau Brouillard, c'est bien
c'est
ça?
C'est le morceau Brouillard.
C'est le morceau Brouillard qu'on peut retrouver sur ton SoundCloud, quoi, sur Amanda Young. Alors, petite subtilité quand même, Amanda Young, ça s'écrit...
YVNJ.
Voilà, parce que sinon tu tombes sur la meuf de Sceaux et du coup tu comprends pas et on sait pas pourquoi on rigole et après on est énervé, enfin tu vas commencer, quoi. Voilà. Comme des agris en colère, quoi. Il dit qu'il n'y a pas de rapport. Et parlant de pas de rapport, il y avait quand même une espèce de, tu vois, quand je me suis mis à diguer un peu justement sur, tu vois, sur l'évolution de la trappe, donc on en a parlé un petit peu sur la question de l'origine des lieux de deal, et puis j'étais assez surprise de lire sur des pages Wikipédia que partie de la reconnaissance de ce courant, qui est finalement assez récent, puisque ça date des années 2000, a été repris et popularisé par des stars un peu mainstream du type Katy Perry, qui a fait des featuring avec Juicy sur des morceaux comme Darkos, que pour le coup je trouve pas mal. Je me demandais si ça faisait partie aussi de tes refs, au même instar que j'ai vu que Lady Gaga avait fait aussi des feats G-Wells and Drug, T.I., je sais pas trop comment on dit. Est-ce que c'est des courants qui te parlent? Est-ce que c'est des choses
vrai,
que toi t'as suivi?
Alors, moi, il faut savoir un truc, c'est que moi j'ai de la culture, les trucs qui existent pas, et par contre dans les trucs qui existent et que tout le monde connaît, je n'y connais rien. Donc je ne sais même pas de quel morceau tu parles, bien sûr que je connais Lady Gaga et Katy Perry, mais assez superficiellement. Voilà.
Pas aussi superficiel que leur protagoniste. Moi je t'avoue que honnêtement, avant d'ouvrir une page Wikipédia après avoir scrollé ton nom de scène, j'en savais pas plus que toi. Mais bref, ça parlait un peu de l'évolution de tout ça, et en fouillant un peu sur ton parcours, je me suis rendu compte que, comme d'habitude, je ne bosse pas, mais comme là, Guillaume n'est pas là, il fallait bien un peu que je compense, quoi. On est vite tombé sur le projet dont tu es lead singer, je ne sais pas si on peut dire
oui,
ça comme ça.
Exactement.
Ou lead singer, je ne sais pas comment on pourrait dire
lead singer, ça.
En anglais, je crois qu'on s'en tape.
J'aime bien l'appellation front person.
Front person?
Oui, du coup, et neutre.
De toute façon, en anglais, on s'en trappe, non?
Oui, complètement, bravo.
Ouais, humour de merde. Et donc là, on est sur un projet peut-être plus, qui en tout cas est défini sur les internets, sur un projet... post-black metal influence shoegaze, si
alors,
je dis pas de conneries.
Tu parles duquel, du coup?
Alors, je vais essayer de le prononcer correctement.
Mutiara
d'Amansara.
Mutiara d'Amansara, exactement, oui.
Et alors, quel rapport avec l'Indonésie? Parce que j'ai googlé.
Alors, c'est pas l'Indonésie, c'est la Malaisie.
Autant pour moi.
On est parti pour parler de Mutiara, on va parler de Mutiara. Mutiara d'Amansara, c'est un projet que j'ai depuis très 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 longtemps. Que j'ai commencé, j'avais 17 ans sur mon ordi, j'ai fait les démos sur GarageBand. Donc j'ai 17 ans, là j'en prends 31 dimanche, donc voilà, vous faites le calcul.
Bon, très 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 longtemps, c'est là, quoi. Regarde la vieille peau en face de toi, quoi. À qu'à moi.
Ça va, sois douce avec toi-même.
Réalisé, si tu nous écoutes.
Et donc en fait, ce projet, voilà, c'est vraiment un projet de chambre que j'ai depuis hyper longtemps, qui s'est développé au fur et à mesure comme un groupe. Et en fait, le rapport avec la Malaisie, c'est que pour trouver le nom, j'ai fait aléatoire sur Wikipédia. Et en fait, ce nom, il m'a...
T'as fait quoi? T'as fait comment en aléatoire?
Il y a un bouton, alors je sais plus s'il y a encore, mais il y a un bouton aléatoire sur Wikipédia qui te sort une page random, en fait.
Ok, d'accord. Ouais.
Et là-bas, c'était un petit jeu sur Facebook que j'avais fait. Genre, fais une pochette d'album avec machin, une image aléatoire, un titre aléatoire. Et ce truc-là, en fait, il est resté parce qu'il ne signifie strictement rien. Enfin, tu ne peux pas lui rapporter une signification dans une langue occidentale. Alors, Peut-être qu'il y a un petit jeu d'exotisme qui est peut-être un peu problématique de ma part, mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait.
Appropriation culturelle.
Et ben en fait, c'est là que ça va devenir drôle, parce qu'en fait, c'est un quartier commercial à Petaling Jaya en Malaisie. Ce qui fait qu'aux alentours de 2014, on a eu un arrivage de personnes malaisiennes sur la page qui trouvaient ça hallucinant qu'un groupe français ait le nom de ce quartier. Et du coup, on a eu beaucoup. Alors, il y a eu pas mal de trolls, hein, mais il y a eu des gens qui étaient vraiment non ironiquement sur fans, qui me disaient Come to Malaysia et tout.
Faut aller faire un concert là-bas. Enfin, c'est peut-être déjà fait, je sais pas.
Alors, non, c'est pas fait, parce que voilà, faudrait des fonds pour faire ça. Mais alors, ça soulève deux questions super importantes. La première, c'est l'Asie du Sud-Est est quand même un petit peu la laissée pour compte des tournées mondiales, parce que quand on dit tournée mondiale, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe, éventuellement le Japon et un petit bout de l'Afrique, n'importe quoi.
L'Afrique, ça part.
L'Afrique, c'est encore pire. Un petit bout de l'Amérique du Sud. L'Afrique, on n'en parle même pas. Et l'Asie du Sud-Est aussi, l'Asie du Sud, enfin, c'est complètement. J'ai oublié, bien sûr, l'Océanie, mais voilà. Mais... Et spoiler, effectivement, il y a des scènes musicales super foisonnantes en Asie du Sud-Est. Il y a notamment une scène métal hallucinante en Asie du Sud-Est. Il y a énormément de fans de métal là-bas. Et justement, nous avons été récemment contactés par un webzine métal malaisien, auquel il faut que je réponde. J'ai beaucoup de mal à répondre à mes messages.
T'as une phobie administrative à la Cahuzac.
Pourquoi Cahuzac?
Je sais pas, je pense à des mecs de droite en ce moment.
Non, juste j'ai du mal, j'ai beaucoup de choses à faire. Ça, on pourra en reparler plus tard.
Quando voy.
Le burn-out artistique, tout ça.
Moi, je suis spécialiste du burn-out tout court.
Et voilà. Et donc, du coup, en fait, ce projet, j'ai même été interviewé sur une radio malaisienne en 2014. Je suis resté levé super tard parce que, du coup, décalage horaire, tout ça. Et non, l'autre truc que ça pose comme question, par rapport au fait de faire un concert là-bas, le souci, c'est que je me suis vraiment posé la question de la faisabilité de ce truc-là et comment trouver les fonds, etc. Trouver les acteurs culturels aussi bien là-bas qu'ici pour faire ça. Mais en définitive, là où ça m'a mis un peu un 49-3 à cette question, c'est que c'est surtout un des pays les plus craignos du monde pour les personnes LGBT. En tout cas, en termes étatiques, c'est un pays qui est extrêmement fondamentaliste et très 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 intégriste et voilà. Et notamment, il y a The 1975 qui ont fait une petite sortie récemment en jouant là-bas. C'est qu'il y a deux membres du groupe, donc deux membres masculins du groupe, qui se sont fait un bisou, histoire de dire « Ouais, l'homophobie, c'est mal !» Et en vrai, ça avait provoqué un torrent de réaction assez négative de la part de la communauté LGBT malaisienne en disant « Écoutez, les petits blancs, c'est pas à vous, en fait, de venir vous donner des leçons » à comment nous on gère le problème de la LGBT-phobie, enfin comment on lutte contre le problème de la LGBT-phobie ici, en fait.
C'est toujours la complexité. Je crois qu'on en parlait en antenne. Je ne sais pas si c'est le moment d'aborder ou pas ce genre de sujet, mais on a abordé la question de la conséquence de la colonisation et ou alors même des croisades et de l'évangélisation sur la vision hétéronormative des pays. C'est vrai que ça serait dommage que maintenant à rebours on vienne aussi être cause du problème et apporteur de solutions avec des visions très occidentaux-centrées.
Exactement.
Mais si on revient sur ton projet musical Mutiara Damansara, si je le dis correctement, je me suis dit putain en écoutant ça et j'en ai presque ri en me disant putain mais c'est encore de la joie, de la joie, de la joie. J'ai essayé de réorganiser partie dans ma petite tête un petit peu malade les numéros des morceaux et je me suis dit que ça faisait presque un poème en fait. C'est when j'ai réorganisé ça genre where you are not there, nothing left. Abnormal cell, annual, winter, dépression. Et je me suis dit que c'était presque un programme de vie, en fait. Presque une espèce de d'ode à la déchéance. Une espèce de to-do list. Sur j'arrive pas à le prononcer avec mon nom. Abnormal cell, qui est quand même. Ou sur lequel il y a, je sais pas, une sorte de. Peut-être de témoignages, en tout cas, VOSTFR, sur la question de des conséquences, en fait, neuronales, la dégradation des neurotransmetteurs sur la modification de la perception qu'entraîne l'état dépressif. Ouais. En tout cas, c'est relativement scientifiquement sourcé. Il y a même toute une esthétique, d'ailleurs, assez chiadée dans ce clip sur ce qu'on appelle communément du. De la performance audiovisuelle avec de la manipulation de fluides en mouvement qui vont aller symboliser justement partie en fait de ces réactions biochimiques. Je sais pas si vous avez un petit délire. Je te vous vois, mais ben, je te vous vois parce que vous êtes plusieurs dans ce projet.
Oui, Moutiara, vous êtes.
Nous sommes plusieurs, effectivement. Nous sommes quatre. Sienne, Simon et Alexis qui sont avec moi. Mais la tête les têtes pensantes, c'est Sienne et moi pour le coup. Et moi, je suis sûr, Sienne est beaucoup plus sur l'aspect production. Production et vraiment emballage, donc le mixage, le mastering, etc. etc. Moi, je suis plus sur la composition et sur la direction artistique.
Mais c'est quoi la formation, les instruments les...
Moi je fais un peu la charpente, donc du coup je fais toutes les démos chez moi, chant, guitare et MAO. Lui il enregistre les guitares en bien, parce que moi je joue assez mal. et Simon et Alexis sont plus des musiciens de live pour le coup. Mais sinon, on a une formation chant, guitare, basse, batterie. Enfin, de guitare, pour le coup.
Et là-dessus, est-ce que tu aurais envie qu'on se passe un morceau?
Mais c'est parti, effectivement. On était parti sur autre chose avec Ludo.
Là, je suis sur la page Bandcamp de
Moutia. Je voulais pas troller votre sélection musicale.
Tu peux carrément mettre le morceau Nothing Left.
Qui est sur
Bandcamp, il est sur l'album Pearls. C'est le dernier.
Alors, c'est meublé pendant quelques secondes.
Ouais, on va meubler.
On peut meubler sur le fait que. Il y a un double album qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
Le double album, c'est les réenregistrements des démos que j'ai faites seul, en fait.
Ok.
Tu peux lancer l'intro. L'intro, elle dure.
Tu veux dire qu'on peut même parler. On est d'accord que c'est un projet qui se situe entre Rennes et Caen.
Nothing Left, tu veux dire.
Non, plus maintenant. Oui, Nothing Left, ouais. Ça ne se situe plus entre Rennes et Caen, ça se situe complètement à Rennes, c'est qu'à la base, nous sommes de Caen. Je viens de Caen, de base.
Sérieux ?
Oui. Voyage.
Voyage, bah oui. Et voilà.
Moi, je pense qu'on a bien meublé, là, qu'est-ce que t'en penses ?
Le morceau est parti, Nothing Left, donc...
Mais arrêtez de nos objectifs.
Nous tira Dame Sarah.
Wait, are you?
On laisse le morceau se dérouler.
Petit coup de Jean-Sébastien Bach à l'antenne. Non, on déconne, on n'est pas sur Radio Classique, on est toujours dans Frisson sur Canal B. 19h48
là,
au compteur.
Cure, 100 Years, pornographique, on écoutait en début de. Ouais, on comprend.
Mais ouais, la boucle est bouclée et on est en train de parler justement de ses influences.
Et oui, bah ouais, Cure, ça a clairement été un truc qui. Ça, c'est pas compliqué. J'ai remarqué qu'on était super influencé par l'empreinte des premiers trucs que t'as écouté quand tu fais de la musique, et elle se ressent beaucoup. Et là, il y a quelques jours, quand j'ai animé un open mic aux Assemblées du Vent, on m'a dit. Ta voix ressemble quand même à celle de Marilyn Manson, ce que j'ai pas très bien pris sur le moment d'ailleurs, mais oui, c'est sûr que oui, ça se sent. Et il y a un autre projet à l'époque qui m'a beaucoup influencé pour Moutiara, c'est le groupe Anathema, qui mène un groupe britannique de rock atmosphérique qui malheureusement n'existe plus. Je crois que c'est parti de ces groupes qui m'ont donné vraiment une obsession. Ça dérive de ce minimalisme très sombre, mélancolique et lancinant à la Cure, mais c'est parti de ces groupes qui m'ont appris qui peut le moins, peut le plus. Dire que le minimalisme en vrai c'est trop bien, moins t'en fais et plus tu te concentres sur vraiment la pureté et la sincérité de l'émotion, t'as pas besoin d'en faire des caisses tant que ce que tu fais est simple et que c'est sincère. Anathema, c'est un peu le groupe qui m'a appris ça.
Souvent avant d'arriver à un résultat minimal, il y a eu énormément de couches de travail, de trucs super bordéliques qu'il faut tiens j'enlève ça.
Mais c'est un des courants artistiques retenus par l'histoire de l'art, justement sur la question du less is more. C'est toute cette question de comment tu digères, on va dire, toutes les influences précédentes pour ne en retenir que l'essentiel, la substantifique. Si j'arrivais à le prononcer, mais comme on n'est pas sur France Inter, je peux bafouiller. Ça n'a pas franchement d'importance.
Ouais, donc Moutiara Damsara, c'est un projet qui est encore très actif.
On a fait un concert à Carquefou au Black Shelter avec le groupe de black metal Tréma.
Dans le 4x4.
Oui, dans le 4x4. Et évidemment.
Qui ne pollue pas. Pardon.
Oui, et nous avons un autre concert programmé. J'ai un problème avec les dates. Je crois que c'est le 4 mai à l'usine.
Donc à Rennes.
Oui, à Rennes. Mmh.
Donc on peut retrouver ces infos sur le Facebook de l'usine.
Alors ce sera à retrouver, il faut que je communique sur la question, parce que évidemment j'aimerais qu'elles aient d'autres dates entre temps et voilà. Mais effectivement je vais l'annoncer sous peu, donc voilà, je l'annonce maintenant.
En avant-première.
Voilà, Moutiara Damansara jouera à l'usine le 4 mai ou le 5 mai, j'ai un trou, en tout cas avec Teiku.
Non, t'en as plusieurs.
Pardon.
Pardon, blague de merde.
Non mais en plus si tu me dis, alors il y a deux personnes qui visiblement ont des graves troubles de l'attention ici, elles sont à la même table et je pense que si les deux ne se cadrent pas, on va jamais y arriver.
Ouais, faut pas ouvrir les deux micros en même temps.
C'est terrible.
Et oui, comment on appelle les multipotentialistes. Bon, mais je suis un peu. Ma seule petite déception de cette. Ah si, je sais sur quoi rebondir. Bon, on est d'accord qu'on est sur de la joie, ces différents morceaux entre Amanda Young et. Oui, tu m'as dit hors antenne, fallait pas que je fasse d'accent merdique. Mais bon, bu les dents, j'ai toujours un peu du mal à pas dériver. Merci l'alcool. Et comme tu reviens toujours sur ces notions de d'épurée, de contraste, de mélancolie, de dark, peut-être qu'on pourrait très très rapidement, si tu le veux bien, parler de aussi ta pratique théâtrale. Et je crois que tu es quelqu'un de très influencé par l'expressionnisme allemand. Est-ce qu'il, on va dire, quelque part rejoint esthétiquement, ou en tout cas en termes de transcription d'art visuel, un peu ce que tu évoques quand tu parles de tes références musicales et ou de Cure? Expressionnisme allemand qui est quand même caractérisé par cette forme justement de darkness, mélancolie, esthétique noir et blanc.
De fait, l'expressionnisme allemand, mais t'as bien fait tes devoirs, toi.
J'ai bien fait mes devoirs, mais c'est que sous mes airs un peu vulgaires et débonnaires, il fêtait que parce que je suis pas là pour partir de moi, donc je vais pas finir cette phrase. Mais je m'y connais un peu là.
Hein. Et bah ouais, bah, disons que l'expressionnisme allemand, quand t'es dans la culture gothique, c'est un courant artistique auquel t'es assez rapidement exposé parce qu'il y a beaucoup.
Années 30, si je dis pas de conneries.
Bah, années 30, et non, mais c'est vrai que j'avais jamais, un, deux, trois, je n'avais jamais fait le rapprochement, mais notamment.
Je prends 60 balles de l'heure, hein, c'est pas cher.
Ok, c'est parti.
En psy, bah,
voilà, notamment dans les premiers groupes de rock gothique, notamment Bauhaus, tu as cette empreinte visuelle de l'expressionnisme allemand qui est hyper visible. Et c'est marrant que t'en parles parce que disons, je n'avais jamais fait le rapprochement avec le travail donc de la compagnie dans laquelle je suis, Les Corias, qui effectivement est en ce moment en train de travailler sur une création qui s'appelle Philanthropie universelle, qui est donc la juxtaposition d'une farce de Bertolt Brecht, Lux in Tenebris, et de sketch de Carl Valentin. Donc deux Allemands donc qui ont écrit.
Tellement de scheisse, pardon. Pardon, je me suis perdu.
Ça dans les années 30 effectivement et après je ne suis pas sur le travail de la mise en scène, ça c'est le travail donc de Cécile Kiefer et c'est vrai qu'il y a une forme d'expressionnisme dans le il y a beaucoup de jeux notamment sur l'ombre et la lumière, beaucoup les ombres en fait dans ce spectacle. Après, il y a une esthétique aussi de théâtre de récup, théâtre de la débrouille, enfin qui est complètement du théâtre forain en fait. C'est François Tanguy notamment que je reconnais beaucoup dans la patte de Cécile. Et oui, bravo pour ce lien. Et donc justement,
ça paraissait relativement évident, surtout que quand on lit justement très très rapidement qui était Carl Valentin, ça reste un clown allemand. Mais bon, on peut pas, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses amis. Du début du 20e, cabaretiste, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transformation, du rapport au soi, du rapport à soi, du rapport à la scène. Oui. Si on boucle la boucle avec des morceaux justement de ton projet Daung, où il est quand même relativement question de la renaissance, de la dimension de du rapport à soi, de la question identitaire, bon, qui est des choses qui n'occupent pas que l'extrême droite, fort heureusement, mais qui nous occupent toutes et tous au quotidien. Et bref, je me suis dit que finalement, tu étais un personnage assez cohérent dans ces influences qui virent entre musique, théâtre, horreur, jeux vidéo. Alors,
les jeux vidéo, non, je ne joue pas, justement.
Tu sais pourquoi j'ai fait le lien ? C'est parce que entre la trap musique, dont partie justement des petits tubes et influences des années 2012, quand il a commencé à avoir des imbrications entre trap, rap et dance. Désolé pour cet accent merdique de fun radio.
C'est vrai que c'est merdique.
Franchement, c'était pas logique. Honnêtement, j'aimerais pas m'avoir enfanté parce que j'aurais un peu honte. Mais bref, le lien qu'il y a eu, c'est que partie justement de ces tubes de trap musique ont été repris par l'énorme studio EA pour justement certains jeux vidéo qui ont fait exploser un peu au box. Et bref, pour moi, il y avait un espèce de la boucle est bouclée parce qu'en googlant cette putain d'Amanda Young, je me suis retrouvé qu'elle-même a été transcrite
en personnage de jeu vidéo
en mode de Dark Lara Croft.
Oui.
Et qui, Lara Croft, qui est quand même une vision, on va dire, ultra extrapolée de la féminité. Et alors, bref.
Pourquoi tu dis ça ? Non, je rigole. Pardon.
Parce que c'est vrai. Parce que je suis complexée d'avoir des petits seins, je sais pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oh, écoutez. Et là, ce que vous allez pas entendre à la tête, c'est un gros check entre Amanda, aka Charlize et moi-même.
Ouais, je me souviens.
Mais nous, on est plutôt Less is More, c'est ça, non ?
Exactement. C'est exactement.
Tomb Raider sur PS1, c'est des gros pixels, hein. C'est pas...
Ah par contre oui, j'ai joué à Tomb Raider pas sur PS1 mais sur je me rappelle avoir joué sur à Tomb Raider sur un Macintosh dans les années 90. Ouais.
Bah bref, j'irai cracher sur vos Tomb Raider.
Ah, il est bien celui-là,
franchement,
on va le garder.
Franchement, ça c'est grâce au troisième verre de bulle sans lequel on ne serait pas là. Tu me parlais précédemment de, il y a juste un petit truc qu'on s'est dit un peu hors antenne sur justement un morceau que tu m'as dit ne pas avoir mis dans cette playlist.
Oui.
Peut-être que d'ailleurs on pourra renchaîner assez rapido sur de la musique parce qu'il est déjà, oh putain, 19h58. Un morceau justement toujours de ton projet Amanda Young, grivoise et suicidaire. J'ai envie de dire tout un programme.
Ouais.
C'est quoi, c'est l'idée de séduire avant de se suicider ou
non,
l'inverse?
Une fois de l'intro. Produit en live en disant ouais, ce morceau je l'ai écrit à une époque où j'étais grivoise et suicidaire, maintenant je vais mieux et je suis plutôt sur le spectre de la sexualité, Je suis.
Ce serait quoi, asexuelle et joyeuse?
Asexuelle et en thérapie. Voilà. Non, mais c'est juste que j'ai un rapport. Disons qu'effectivement, j'avais un rapport. C'est un rapport que j'ai toujours, mais c'est le rapport entre Eros et Thanatos, quoi, et entre la pulsion de mort et
la pulsion de vie. Ouais.
D'accord. Et en fait, voilà.
Mais ce qui m'a fait marrer à l'écoute de ce morceau, c'était que, je sais plus si c'est à une ou à plusieurs reprises, tu utilises le terme de drama pute. Et je me suis dit, putain, mais il faut quand même qu'on popularise ce terme. Et en tout cas, que toi, tu puisses nous l'expliciter à la radio.
Voilà.
Parce qu'à la fois, c'est un mot assez fun. Et à la fois potentiellement polysémique, et j'avais envie d'entendre ta définition de ce terme,
et donc,
drama pute.
Et oui, donc oui, ce n'est pas une référence à Al Capote, même si j'écoute beaucoup Al Capote. Voilà, tout le monde est pétri de contradictions. Drama pute, en fait, c'est une réappropriation du terme attention whore, qui est un terme qui est utilisé pour dénigrer notamment les femmes qui parlent de leur mal-être sur les réseaux sociaux. Pour leur dire, bah voilà, tu es une pute à attention, tout ce que tu recherches, c'est de l'attention. Mais c'est un terme qui m'a aussi été adressé à l'époque en tant que homme. Car oui, voilà, spoilers, je suis donc une personne transféminine. J'aurais vraiment plein de trucs à dire là-dessus, mais c'est que... J'étais dans une position à ce moment-là où c'était compliqué de trouver écho, au fait de parler de ma souffrance, en fait.
Du coup, tu préfères utiliser ce terme pour être en gros en anticipation des potentiels.
C'est ça.
Hater qui pourrait s'attaquer à ce que toi tu étais, ou est-ce que tu renvoyais, ou la façon dont tu voulais t'exprimer sur ton genre, ton identité, ta trajectoire.
C'est une question qui me travaillait déjà à l'époque, mais qui n'était pas aussi prégnante que maintenant. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les gens s'intéressent beaucoup mieux à comment je vais mal depuis mon coming out. Hein, c'est assez terrible. Bon, c'est pas un sujet dans lequel j'ai envie de rentrer à la toute suite parce qu'il est super complexe.
Et qu'il est 20h01.
Mais
sache que Frisson, ça a toujours été depuis un certain nombre d'années.
Arrête de dire l'heure toutes les 5 minutes.
C'est mon toc, ok. Frisson, ça a toujours été une sorte de thérapie collective, individuelle et collective.
Frisson, non, Frisson, c'est une horloge parlante, quoi, en fait.
Mais bref, pour avoir un petit peu les deux côtés de la balance en termes d'expérience, je constate que c'est quand même très compliqué de parler de sa souffrance quand on est un homme.
Je pense que c'est compliqué. Alors,
compliqué de la même manière.
Ouais.
Mais c'est, disons que vu que tu es éduqué et injonctivé à encapsuler constamment tes émotions et à ne pas les exprimer parce que tu es un homme, déjà ça crée pas des manières saines et non toxiques de l'exprimer quand elle a besoin de sortir. Et deuxièmement, c'est la spirale, c'est juste la spirale, la violence qui est perpétuée, et qui, du coup, tu vois aussi en quoi le patriarcat profite aux hommes, mais aussi leur nuit. Et il n'y a qu'un seul truc qui encapsule les émotions de la même manière que le patriarcat dit aux hommes d'encapsuler leurs émotions, c'est le trauma. Le patriarcat dit littéralement aux hommes de vivre constamment la coupelle traumatique des émotions.
Ouais. Ça s'entend pas à la radio, mais je plus sois tout ça. C'est pour ça qu'on dit, dites à vos filles d'apprendre à faire attention. Moi, je dis aussi éduquer vos garçons. Mmh. On est d'accord que c'est une problématique qui, de toute façon, patriarcat, qu'on soit pour ou contre, on est toujours en référence à un même système, et ça nous influence, qu'on soit homme, femme. Cis, trans, peu importe. Je suis en train de me perdre dans ces considérations-là parce que j'ai une espèce de gros flash de la gueule de Gérard Larcher qui m'arrive en pleine face pour me dire « Non, mais l'IVG dans la Constitution... »
Ah ouais, non, mais...
Et donc là, quand tu me parles en ce moment du paroxysme du patriarcat, j'avoue que sans m'étendre, je suis un peu colère là-dessus.
Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec un peu de musique?
Surtout que drama pute...
Alors,
bref, enchaîne avec un peu de musique, mais drama pute, ça m'a fait marrer, parce que quand tu dis ça, c'est d'accord, mais c'est aussi un peu la putaclic quoi.
Donc on avait Calais, Xastour.
Ben voilà, allez, on parlait de souffrance masculine, et ben on va mettre de la musique d'un monsieur qui, je crois, il va mieux, hein, mais un monsieur qui était très 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 triste. Si vous avez vu le documentaire One Man Metal, vous pourrez le constater. Je vous assure, c'est un one man band de black metal américain. Parce que voilà, j'ai écouté beaucoup de black metal dans ma vie, j'en suis revenu. Hein, c'est quelque chose dont on peut guérir. Hein. Mais voilà. Mais si vous allez mal et que vous voulez vous en sortir et que vous écoutez du black, je vous donne un conseil: arrêtez d'écouter du black.
Metal.
Oui, du black metal, pardon. Pour les profanes, ça peut paraître bizarre, cette phrase. Ça peut paraître très, très bizarre.
Putain, là, on était là. Ah, la vache. On est passé à deux doigts.
donc Xastour, The Prison of Mirrors.
Ou alors un discours de Clémentine Autain contre Gérard Larcher, on sait pas trop.
Ou un discours de Gérard Larcher contre...
Contre un truc qui visiblement il ne maîtrise pas très bien. Merci pour ce choix musical qui nous a occasionné pas mal de discussions hors antenne sur des influences minimales. Puis on tournait un peu en rond autour de ces questions d'expressionnisme et de contraste. Et je crois que tu avais envie qu'on revienne un peu sur l'approche minimaliste de ces constructions-là.
Bah, disons que, ouais, Xastour, pour moi, c'est un des derniers groupes de black metal que, enfin, pour les black metal auxquels je peux revenir et qui me plaît vraiment, c'est qu'il y a cette espèce de faux minimalisme très. Enfin. Tu écoutes cette musique, t'imagines tout un univers noir et blanc en fait. C'est qu'il y a. Alors je suis aussi quelqu'un qui est beaucoup beaucoup dans les extrêmes et qui voit souvent les choses soit en tout blanc, soit en tout noir. Mais je suis en thérapie, tout va bien. Mais ce projet me parle beaucoup et c'est un truc qui m'a énormément influencé parce qu'il y a une charge atmosphérique qui est absolument dingue. Et en fait, c'est le genre de musique où même, je pense qu'une oreille profane des fois comprend pas forcément ce qui se passe et. C'est ce que je trouve fascinant avec le black metal, enfin surtout le black metal américain, parce qu'on parle beaucoup de la scène norvégienne parce qu'elle a un peu consolidé le truc, mais la scène américaine, c'est vraiment une scène musicale, et c'est un truc qui était assez nouveau à l'époque dans la musique rock d'une manière générale, c'est que c'est nouveau, mais non, parce qu'on peut faire le parallèle avec The Cure. Mais c'est vraiment une musique qui a mis l'harmonie au premier plan. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va se débarrasser de la mélodie. Et la mélodie, en fait, c'est l'auditeuriste qui va la faire seul en écoutant ce qui se passe harmoniquement et qui va déterminer, en fait, des patterns dans la musique. Et ce truc-là, bah, le black metal, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Et après, il n'y a pas que moi qui a eu cette grosse influence, notamment aussi visuelle, parce que le black metal, c'est une musique qui... est presque plus connu pour son esthétique, le corpse paint, les typos déchirés, etc., que je refais ma phrase, qui est plus connu pour son esthétique que pour sa musique. Et c'est un truc notamment qui a beaucoup été récupéré dans le rap. Maintenant, même Kanye West porte des t-shirts Burzum. Entre Burzum étant quelqu'un de très antisémite et Kanye West aussi, c'est pas...
Burzum, ça parle pas, tu peux expliciter ?
Burzum, c'est le projet de... Voilà, si je parle là-dedans. Burzum, c'est le projet d'un homme qui s'appelle Varg Vikernes, qui est donc un one-man band de black metal norvégien. Et cet homme s'est donc illustré dans une année 90... par sa musique, effectivement, mais aussi pour ses exactions. Notamment, c'est lui qui a un peu lancé la vague d'incendie d'église en Norvège, ou qui, disons donc, cette petite team-là, qu'on appelait le Black Circle, a donc incendié 23 églises, dont des églises en bois debout moyenâgeuses. Et Varg Vikernes est également un activiste néo-nazi, en fait, concrètement. Et il a fait de la tôle pour avoir assassiné du coup son pote donc Euronymous, le guitariste du groupe Mayhem, une personne donc très très chouette.
C'est ce que ma mère appellerait des mauvaises fréquentations.
C'était clairement des mauvaises fréquentations. Et tu vois, je suis très 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 pas pour la prison, et la prison c'est de la merde, etc. Mais alors bizarrement, lui effectivement, là, la prison, même le système carcéral norvégien, qui est quand même beaucoup plus enviable que le nôtre, ne l'a absolument pas changé, parce qu'il est toujours aussi nazi après quasiment 20 ans passés en prison. Et l'ironie du sort a fait qu'il s'est réillustré dans les médias au cours de la décennie dernière, parce qu'il y a eu une grosse perquis chez lui, parce qu'il est dans un délire survivaliste à la con, et en fait il a plein d'armes chez lui, et en fait il a été perquisitionné pour suspicion de terrorisme. On était sous Vals Hollande à l'époque. Voilà, il avait fait
un fichier S, tu veux dire.
C'était un fichier S. Mais bref, le black metal, voilà, c'est une esthétique super forte qui a été récupérée, par notamment le rap alternatif. Et à un moment dans ma vie, j'ai été très très peu réceptif au rap, jusqu'à ce que je découvre la trap alternative, le rap alternatif, la dark trap, et on m'a fait écouter des projets qui ont genre changé ma vie et qui ont du coup donné ce que je suis maintenant. Enfin, c'est des projets qui m'ont fait comprendre que en fait, dans la musique, il n'y a pas de barrière. En fait, tu fais ce que tu veux. Tu fais littéralement...
Et citoyenne du monde.
Je n'irai pas jusque-là, mais tu fais exactement ce que tu veux. Et notamment, un artiste dont je me sens extrêmement proche en termes d'influence, c'est Bones, qui est un rappeur américain qui était très actif dans les années 2010 et qui, pour moi, a un peu changé la face de l'industrie musicale, parce que c'est lui qui a vraiment... qui a fait devenir au rap le meilleur pote du rock, dans la mesure où tu c'est quelqu'un qui a montré qu'il pouvait avoir des influences rock et même avoir un projet qui est globalement en termes de couleur musicale rock, mais juste mener ton projet comme un rappeur. Et c'est quelqu'un qui a quelque part un peu donné naissance à Lil Peep, et Lil Peep ayant eu l'influence qu'il a eu sur l'industrie musicale et qui a tout simplement remis le rock au goût du jour, mais avec des 808, avec des instruments trap. Et voilà, Lil Peep, c'est aussi je pense aussi une très grosse Lil Peep a permis, je pense aussi, l'arrivée de l'hyperpop.
Peut-être que t'explicites pour nos éditeurs.
Lil Peep a permis, en fait, voilà, je pense que Lil Peep a permis aussi l'arrivée de l'hyperpop, donc cette musique très très hystérique, glitchée, très queer aussi.
T'as dit hystérique là.
Oui,
l'hyperpop, c'est Bidouche. C'est littéralement ça. Bidouche, ouais. C'est Bidouche qui nous avait parlé du concept d'hyperpop que nous on a découvert en tant que vieux boomer.
Complètement.
SO à Bidouche d'ailleurs, au passage.
Ouais, pour lequel t'as fait d'ailleurs mastering, si je dis pas de conneries, et figuration dans un de ses. Son clip, Cocktail Martini. On l'embrasse d'ailleurs, on était ravis de l'avoir sur nos antennes il y a quelques temps. Aka bisous.
Mais donc on était sur Bones, on peut.
Eh ben on va carrément.
Peut-être qu'on pourrait se faire
Bones.
Ça.
Et Bones, voilà, c'est pour moi le changement dans ma carrière, c'est vraiment le changement qui m'a dit bon, tu peux faire des trucs seul, tu peux faire des trucs qui envoient balader les barrières, les codes et les styles, et vraiment quand j'ai écouté ça, je me suis dit ah ouais, ok, on peut faire ça, genre.
Je pense que c'est quand même une émission sur la thématique de la transition et de l'empowerment. Vas-y, envoie Ludo.
Bones.
Sur Canal B dans Frisson et vendredi soir.
C'est Charlize Theron. Charlize Theron sur les antennes de Frissons. Rebonsoir à toutes et tous. 20h21 au compteur.
Oui, c'est important
avec,
de le rappeler.
Avec Charlize sur les projets Amanda Young, Muturia, de Mansara et aussi le projet dont on n'a pas encore parlé à l'antenne, Oneself.
Ah, qui... Non-Self. Alors, j'avais même prévu d'en parler celui-là. Oui, parce que.
T'es pas obligé, hein.
C'est ça que quand t'as 5 projets, en fait, faudrait faire 5 émissions différentes. Mais le morte. Donc, du coup, là, le prochain morceau sur lequel on va, du coup, terminer.
Conclure.
C'est Morte Imminence, du coup. Et ça, c'est un projet qui est un peu en mode zombie, là, si on est en train de retravailler sur un morceau avec. Mon comparse Vincent, et c'est un projet de black metal qui avait une volonté de parler de dépression, mais sous une voilà, encore une fois, mais parler de
spoiler alert,
ça parle encore de tristesse,
voilà,
sous un angle
anticapitaliste,
en fait. C'est-à-dire de vraiment ancrer la dépression comme un mal du siècle et comme
Amen.
Amen, voilà. Vous avez encore loupé un chèque, du coup, vous n'avez pas vu.
C'était un beau chèque, Gwendo Charlize.
Et de remettre en perspective le fait que tout le monde va mal parce que nous sommes dans une société vraiment très très pourrie et qui nous donne très très peu de perspectives d'avenir et qui nous... conditionne nos cerveaux à voir constamment au court terme parce que nous sommes incapables de nous projeter au-delà de 5-10 ans maintenant.
Mais nous, on dit halte à sinistrose. Ah, j'arrive plus à le dire. Halte à la sinistrose. Et puis, on est tellement contents de se retrouver tous les soirs, tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30 sur Canal Bébé ou Canal KBV. Je parle.
Okay, comment t'as mis ton micro? On t'entend pas.
Je sais
quand
pas.
Tu parles dans le micro, t'entends pas?
Écoute, reste cool, bébé.
Pourquoi il est à la verticale ton micro? C'est n'importe quoi. Complètement craqué.
Ça me fait penser à mon ex, tiens. Bref, on est hyper contente de t'avoir eu sur cette émission. Merci de nous avoir fait l'honneur de dresser ton parcours un peu sans tabou entre trappé, dépressionnico, metal, hardcore. En tout cas, c'est des belles découvertes. Je pense que tu peux peut-être te rappeler les prochains concerts. Si on pouvait te rappeler les dates tes prochains.
Là, c'est le moment de dire toutes les infos importantes que tu aurais
peut-être
oublié. Carrément.
Parce qu'on n'est peut-être pas des pros du marketing, parce qu'on n'est clairement pas
Macron-compatible,
mais il y a un moment, il faut que ça rentre.
Je suis une très mauvaise communicante, il faut que je demande à quelqu'un de le faire à ma place. Mais en tout cas,
mais t'as pas de thune, ma gueule.
Exactement. Moutiara d'Amansara jouera donc à l'usine le 4 mai. J'ai donc vérifié la date. Amanda Young, je n'ai pas encore de nouvelles dates prévues, mais si vous m'avez kiffé, bookez-moi. Et on fera également avec les Corias, donc ma troupe de théâtre, nous ferons également deux présentations ouvertes au public à notre local, la zone de campement provisoire au 13 bis avenue de Pologne. Ce vendredi à 17h et ce samedi, vendredi prochain, je me voyais déjà la semaine prochaine, vendredi prochain 2 février à 17h et samedi 3 février à 16h.
Et donc si comme moi vous avez envie un peu de geeker sur notre invité pour découvrir ses différents multiples projets, en tout cas la pluralité de cette personne, vous pouvez aller checker sur les Instagram et SoundCloud, en commençant par Amanda Young et
YVNG.
Merci, voilà. Parce que c'est quand même compliqué à dire. On a dit qu'on ne faisait pas d'accent, mais j'ai du mal en fin d'émission. C'est mon petit côté Maïté, Gwendo Maïté. Bref, merci pour cette troisième, quatrième émission de saison. Je crois qu'on n'est pas trop loin de se faire des acabisous.
Il est que
20h25.
Oui, mais on a un dernier morceau à écouter.
Il est long. C'est le problème, c'est mon souci, c'est que je compose des morceaux longs et j'écoute des morceaux longs. Ça s'est arrangé au fil des années, parce que j'écoute...
Lassisement, mon cul.
J'écoute de la musique presque normale maintenant.
Ça veut dire quoi, normal?
J'écoute des morceaux qui font moins de 4 minutes.
Ça sera le sujet d'une prochaine émission.
Exactement.
En tout cas, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour une fois, je vais faire un truc hyper radiophonique. Je vais annoncer notre invité de la semaine prochaine. Si je dis pas de conneries, on reçoit Vivien Petit. Regarde-moi avec des yeux foncés,
c'est ça,
Ludo,
Vivien Petit.
Ouais, et publié aux éditions Mediapop, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Ciel et Marine sur l'histoire du H-A-C-E, j'ai dit
du hack.
Du hack, j'y connais Walou en foot, je vais passer pour une, la blinde de service. Bref, c'est un type qui discourt sur l'acception de la culture au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait foot et sport et culture. Charlize, merci bien.
Merci à vous.
On se retrouve bientôt devant vos innombrables projets musicaux .le.s. Me regarde pas comme ça.
Et on se termine avec Morteminence.
On a avait dit.
Je l'ai bien prononcé.
Exactement.
Mais on se termine plus.
Si, on se termine.
Voilà. Je dis souvent aux gens, si vous voulez me connaître et si vous voulez être proche de moi, écoutez l'album de Morteminence, parce que vous n'arriverez jamais à être aussi proche de moi que si vous écoutez cet album.
Mais buvez, c'est mon sang, touchez pas, c'est mon cul, comme dirait.